le début jusqu'à la fin de la Bible, il est question de manger. Il est des repas. La Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il est question de toutes sortes de repas, avec toutes sortes de personnes. Des grands repas, des petits repas. Des repas des riches, des repas des pauvres. Des repas dans des maisons, des repas dans des palais, des repas dans des déserts, des repas auprès d'une rivière, des repas, on va dire, naturels et des repas, on va dire, surnaturels. Quand on regarde les évangiles, on voit que Jésus est souvent en train de manger. Ce matin, nous allons regarder un exemple d'un repas où Jésus est invité chez quelqu'un, un certain Lévi. Mais ce n'est pas la seule fois qu'on trouve Jésus en train de manger. Dans l'évangile de Luc, surtout, on le trouve en train de manger presque une dizaine de fois. Dans Luc 7, il est chez un certain pharisien qui s'appelle Simon. Dans Luc 9, il est avec plus de 5000 personnes en train de manger un repas tiré des sacs, comme on dirait à notre époque. Luc 10, il est chez Lazare, Marthe et Marie. Luc 11, il est chez un autre pharisien. Luc 14, il est chez un autre pharisien, un chef des pharisiens. Luc 19, il s'invite chez un certain Zachée, un petit monsieur. Luc 22, il prend son dernier repas avec ses disciples, au cours duquel il institue ce que nous appelons la scène. Et Luc 24, il est encore en train de manger avec des disciples déprimés. Jésus s'intéresse aux disciples qui sont tout feu tout flamme. Il s'intéresse aussi aux disciples qui sont un peu découragés, déprimés. Et Luc 24, deux disciples ne savaient pas que Jésus était ressuscité jusqu'à ce qu'ils mangent avec lui. Et là, leurs yeux s'ouvrir. Ce que j'aimerais faire ce matin, c'est lire un exemple, comme je viens de dire, dans Luc 5, un repas où Jésus est invité. Et je peux vous dire que chaque fois que Jésus est invité à manger chez quelqu'un, ou chaque fois qu'il s'invite à manger chez quelqu'un, Jésus saisit de l'occasion pour parler, pour enseigner, pour raconter une parabole, pour répondre aux questions et aux critiques. Il saisit l'occasion aussi pour corriger des croyances erronées ou pour contredire des mauvaises idées. Ce repas où Jésus est chez Lévi se passe juste après un moment très fort dans le ministère de Jésus. Il vient de guérir un monsieur qui était paralytique. Il vient de pardonner à ce monsieur ses péchés. Et là, c'était un scandale. Parce que quand Jésus dit « Je te pardonne, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi et marche », les chefs religieux ne sont pas contents. Ils commencent à râler, à rouspéter, à fulminer, et ils disent « Mais qui est cet homme-là ? Dieu seul peut pardonner. » Ils avaient beaucoup de chemin à faire pour comprendre que Jésus était le Fils et il avait le pouvoir de pardonner les péchés. Et ces mêmes chefs religieux, on les retrouve dans le texte que nous allons lire. Luc, chapitre 5, à partir du verset 27. Après cela, c'est-à-dire après cette guérison et cette conversion, après cela, Jésus sortit et il vit un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis au bureau des taxes. Il lui dit, « Suis-moi. » Et laissant tout, il se leva, il le suivit. Lévi lui offrit un grand festin dans sa maison, et beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et leurs spécialistes de la loi murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ?» Jésus prit la parole et leur dit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Ou peut-être dans votre Bible, il est écrit « à changer de comportement ». ou peut-être dans votre Bible, il est écrit à se repentir. Jésus rencontre Lévi. Ce récit se trouve dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Marc, dans Matthieu 9 et dans Marc 2. Et dans les deux autres récits, Lévi se fait appeler Matthieu, parce que Lévi et Matthieu, c'était la même personne. Lévi, Matthieu, c'est l'auteur du premier évangile, l'évangile selon Matthieu. Et si ça vous intéresse, le nom Matthieu signifie « don de Dieu ». Et le mot « Lévi » signifie « s'attacher à quelque chose » ou « à quelqu'un ». Et Lévi, avant de se rencontrer Jésus, était très attaché à l'argent. Et une fois qu'il a suivi Jésus, il était très attaché à Jésus. Lévi était bien sûr le troisième fils de Jacob et de Léa dans le livre de la Genèse. Lévi est aussi appelé dans l'évangile de Matthieu le fils d'Alphée. Et Alphée, c'est un personnage dont on ne connaît pas grand-chose, mais le mot Alphée, je ne connais aucun Alphée aujourd'hui, A-L-P-H-E-E, mais ça signifie bouvier, celui qui garde les bœufs. Vous connaissez certainement des Lévis aujourd'hui qui ont existé ou qui existent, des gens, des philosophes, des auteurs, des acteurs, des chanteurs. Alors, j'aimerais poser une question, voilà, trois questions, mais qui commencent avec le même mot par rapport à ce texte. Et c'est un mot, une question que vous posez certainement plusieurs fois. Et ça commence avec le mot « pourquoi ». Pourquoi ? J'étais étonné de lire il y a quelques semaines un livre qui s'appelle « Pourquoi ?». Et l'auteur de ce livre a compté combien de fois on trouve la question « pourquoi ?» dans toute la Bible. J'étais étonné de savoir qu'on trouve cette question selon l'auteur de ce livre, je n'ai pas vérifié, mais je le crois, 510 fois. Parfois, c'est des chrétiens qui posent des questions. Parfois, c'est des non-chrétiens qui posent des questions. Parfois, c'est Dieu lui-même qui pose des questions à des croyants. Parfois, il pose des questions à des non-croyants. Pourquoi? Alors, ce matin, trois questions. Pourquoi Lévi s'est-il levé pour tout quitter et suivre Jésus? Pourquoi Lévi s'est-il converti? Pourquoi Lévi a-t-il accepté de changer de vie? Pourquoi s'est-il levé pour tout quitter et suivre Jésus? Eh bien, il y a une raison simple et une raison véritable. J'ai évité de mettre le mot compliqué parce que ce n'est pas vraiment compliqué. Mais la raison simple, c'est parce que Jésus lui a dit, « Suis-moi. » Et il a répondu et il a dit, « Je vais te suivre. » Ceci dit, tous ceux à qui Jésus dit « Suis-moi » ne se lèvent pas pour le suivre. Même dans les évangiles, il y a des gens qui refusent de suivre Jésus. Et même aujourd'hui, il y a des gens qui sont interpellés par quelque chose dans la Bible, mais pour telle ou telle raison, refusent de se lever pour s'engager avec le Seigneur Jésus. Mais la raison simple, c'est que Jésus lui a dit « Suis-moi » et il a foncé. La raison véritable, eh bien, je crois qu'on peut dire que Lévi, comme tout chrétien, savait que Jésus était le chemin, la vérité et la vie. Il savait, comme tout chrétien, que Jésus était la seule porte, que Jésus était le seul sauveur. Il savait, que, comme tout chrétien, qu'en Jésus seul, il pouvait y avoir le pardon, la vie et le salut et être délivré d'une éternité en enfer. Il savait, comme tout chrétien, qu'en Jésus seul, il avait l'espoir, la lumière, la force, et Jésus allait devenir son chant, même si on ne voit pas qu'il chante dans ce texte. On peut dire que Matthieu, ou Lévi, pas Lévi, Matthieu, vous allez me pardonner, je vais l'appeler parfois Lévi, parfois Matthieu. On peut dire que Lévi a osé se positionner par rapport à cet étranger de Nazareth. Il a osé prendre position pour dire, cet homme-là, je veux le suivre. Cet homme-là, je veux l'écouter. Malgré les critiques, malgré l'opposition, malgré le prix à payer, il était prêt à dire, je veux suivre Jésus-Christ. Matthieu aurait pu dire avec André, Philippe et d'autres disciples, j'ai trouvé le Messie. J'ai trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi. J'ai trouvé celui dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. C'est ce que nous lisons dans le témoignage d'André et d'autres au début de l'évangile de Jean. Matthieu aurait pu dire, c'est de lui que j'ai besoin. C'est lui que je veux dans ma vie. C'est lui que je veux suivre. Et c'est formidable comme quelqu'un dit, je veux suivre Jésus. Il y a quelques années, nous étions dans une église et je prêchais sur un texte dans l'évangile de Jean. Et à la fin du culte, une femme qui était là pour la toute première fois vient me voir pour dire, monsieur, vous avez parlé de Jésus. Eh bien, c'est de lui que j'ai besoin. C'est lui que je veux suivre. Alors, j'étais réjoui. Et on a discuté, on l'a invité à la maison. Et quand elle est venue à la maison, elle nous a expliqué ses idées assez bouddhistes. Et elle a dit, vous savez, monsieur, j'ai un souci. J'ai dit, bon, ok, mais allez-y. Elle dit, oui, j'ai un souci parce que je crains pour le salut de mes poules. J'ai dit, oui. Donc, elle explique qu'elle a des poules dans sa basse-cour. Elle priait pour l'âme de ses poules. Et voulait que les poules soient pardonnées et puissent avoir la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un comme ça? Elle dit, on a discuté longtemps, et pendant plusieurs semaines. Mais après des semaines et des lectures bibliques avec cette dame, elle a compris qu'il ne fallait pas s'occuper de l'âme de ses poules, mais de la sienne. Elle s'est convertie, et aujourd'hui, elle est tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Mais ses premiers mots étaient, c'est de lui que j'ai besoin. C'est lui que je veux suivre. Lévi s'est levé pour suivre Jésus parce qu'il savait que Jésus était le seul sauveur. Une question qui ne commence pas avec pourquoi. Et est-ce que nous sommes tous dans le même bain ou la même catégorie que Lévi? Est-ce que nous sommes tous convaincus que Jésus est le seul chemin? Est-ce que nous sommes tous prêts à dire à quiconque, je suis Jésus? Je suis du verbe suivre, bien sûr. Je suis son disciple. Il m'a appelé. Deuxième question. Pourquoi Lévi a-t-il invité Jésus à venir chez lui? Alors, j'avance trois raisons. Et il y en a certainement d'autres. Parce qu'il voulait revoir Jésus. Il le connaissait peu, mais ce qu'il savait de lui était, je veux le suivre. Donc, pour faire meilleure connaissance, il invite Jésus chez lui. Deuxième raison, j'imagine qu'il voulait remercier Jésus. Que Jésus, qui était toujours entouré de foule, que Jésus s'est arrêté pour s'intéresser à ce gars-là. C'est toujours étonnant dans les évangiles, où il y a des foules, mais Jésus s'intéresse à un enfant, une gamine. Une femme malade, un monsieur âgé, un malade, un paralytique. Nous sommes tous des individus et chacun de nous compte aux yeux du Seigneur. Et pour Matthieu, je suis sûr qu'il voulait remercier Jésus. Mais une troisième raison, je pense qu'il voulait rendre témoignage. Il voulait rendre témoignage parce qu'il est écrit qu'il a invité plein de gens. Il a invité Jésus. Mais il a invité plein de gens. Dans la Bible du Semeur, il est écrit, Lévi organisait dans sa maison une grande réception en l'honneur de Jésus. Cela veut dire qu'il n'a pas dit à sa femme, écoute, va chercher quelque chose de congèle, tu réchauffes vite fait, et puis on va inviter Jésus. En tant que collecteur d'impôts, il avait les moyens pour faire un festin. Et c'est ce qu'il fait, et on ne sait pas combien de personnes ou combien de dizaines étaient invitées. Mais il a invité toutes sortes de personnes, des collecteurs d'impôts, d'autres personnes, comme il est écrit au verset 28 ou 29, et Jésus et aussi les chefs religieux et les spécialistes de la loi. Il a invité des gens pour rendre témoignage. On dirait que Lévi, dès sa conversion, était conscient de l'importance d'être un témoin. Il était conscient de l'importance de parler de Jésus et d'inviter d'autres personnes à connaître Jésus. Peut-être dans sa tête, il se disait, si je me mets à suivre Jésus, si je deviens disciple de Jésus, je dois aussi être un témoin de Jésus. C'est presque 3 ans plus tard que Jésus a dit à ses disciples, « Vous serez mes témoins. » En même temps, il a dit, « Allez partout dans le monde, faites des disciples. » Des années plus tard. Mais déjà dans, j'allais dire, dans l'ADN de Matthieu, il y avait déjà l'idée, « Je dois être un témoin. » Est-ce que vous savez ce que c'est un témoin? Ça vient du mot martyr, tout à fait, le mot martyr en grec. Mais un témoin aussi, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose, qui a entendu quelque chose, qui a ressenti quelque chose, qui a su quelque chose. Il y a quelques semaines, notre fille Fiona était sur un quai de gare, et puis elle a vu un monsieur se faire attaquer par un autre monsieur, juste sous son nez presque. Et quelques jours plus tard, donc, il y a une bagarre. Ma fille, étant intelligente, ne s'est pas mêlée à cette bagarre, mais elle était témoin. Et quelques jours plus tard, elle était appelée au commissariat, et on lui dit, « Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous savez de cette bagarre, de cette agression? Et ça s'est passé à quelle heure? Quand? Etc., etc. » Elle a témoigné. Elle a répondu aux questions. Et un chrétien qui est un témoin, c'est quelqu'un qui parle de Jésus. Qui dit, voilà ce que je sais. On ne sait pas tout, mais voilà ce que je sais. Voilà ce que j'ai vécu. Voilà ce que j'ai ressens. Voilà ce que j'ai reçu. Voilà ce que j'entends quand je lis la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes disciples? Est-ce que nous sommes tous des témoins? Certains ont une facilité pour témoigner. D'autres ont des difficultés à témoigner. Mais on peut prier. Et je dirais, on doit prier. Seigneur, aide-moi à saisir les occasions, à surmonter la peur, afin que je puisse parler de toi. Lévi avait un fardeau pour les âmes perdues. Il y a 150 ans, un monsieur dans une église, il s'appelait John Wanamaker. C'était un homme d'affaires. Et quand il avait 50 ans, il avait un fardeau pour les chrétiens, les gens qui fréquentaient son église. Et un dimanche matin, il a donné un papier écrit à la main, à l'époque bien sûr, à tous ceux qui étaient au culte. Et sur ce papier, il avait écrit les paroles suivantes. Si tu n'es pas converti, tu as besoin d'être pardonné. Et Jésus seul peut te pardonner. Sinon, tu vas en enfer. C'est clair, hein? C'est cash. Mais, sur le même papier, par contre, si tu es déjà converti, tu as besoin d'en parler à d'autres. Parce que tant de gens meurent sans Christ. Je ne vais pas vous donner un papier comme ça à la fin du culte. Mais je vous lis ce qu'il a donné à des chrétiens. Parce que lui, il avait un fardeau pour les âmes. Et il voulait que les chrétiens aient un fardeau pour les âmes. Inviter des gens pour un repas, pour parler, pour leur parler de Jésus. Est-ce que ça vous est arrivé? Il nous est arrivé plusieurs fois d'être invité à des repas chez des gens, parfois non chrétiens, pour qu'on puisse parler à leurs amis de notre foi en Christ. Il nous est arrivé pendant quelques années de rencontrer beaucoup de non-chrétiens, des parents d'élèves aux écoles de nos enfants, d'amis dans les quartiers, etc. Et des gens qui n'étaient pas encore convertis voulaient, ils se demandent, mais David, tu arrives de quelle planète? Mais tu crois ce que tu crois, mais ce n'est pas possible. Brigitte, mais ce n'est pas possible, tu es une femme intelligente. Mais pourquoi tu crois en Dieu? Donc on était invités chez des amis non-chrétiens, ils m'ont invité des amis non-chrétiens pour nous rencontrer. Donc, même des amis non-chrétiens évangélisaient presque leurs amis non-chrétiens. Et nous, on était là, autour d'un repas, et pour nous, parler, ben, ça va, manger, ça va. Mais la difficulté, c'était que... est-ce que Mary, je vais avoir l'eau, s'il te plaît? C'est que souvent, les questions théologiques venaient vers 1h du matin. Et 1h du matin, j'ai un peu de mal à réfléchir. surtout après ou pendant un grand repas. Mais c'était formidable parce qu'on a vu quelques personnes, j'ai pensé à un couple d'haltérophilie qui nous a invités pour rencontrer un autre haltérophile. Mais un couple d'haltérophiles nous invite à rencontrer un autre haltérophile. Donc, trois personnes musclées, hein? Il ne fallait pas se disputer avec eux. Mais ils voulaient savoir, mais vous êtes qui? Et Dieu, dans sa grâce, a pris des années, merci, des années de discussions, de lectures bibliques, des prières. Les trois haltérophiles se sont convertis. Mais ils nous ont invités avant la conversion. Et je me dis, mais c'est pas mal comme idée. Inviter quelqu'un pour un repas, non pas pour leur prêcher l'évangile, mais pour saisir des occasions. Quand on les a, parfois une soirée peut passer sans qu'on puisse avoir une occasion. Eh bien, au lieu de se culpabiliser ou de fabriquer, de créer des occasions, il faut prier pour une deuxième soirée, pour parler du Seigneur. En tout cas, pour revenir à Lévi, il a invité des gens parce qu'il voulait témoigner. Et je vous encourage à penser à votre témoignage auprès de personnes non chrétiennes. Et si vous ne connaissez aucun non chrétien, et dans les visites dans les églises où je vais, je rencontre des chrétiens qui ne connaissent aucun non chrétien. Eh bien, allez faire partie d'un club ou allez. Il faut rencontrer des non chrétiens et vivre votre foi auprès d'eux. Troisième question, dernière question. Pourquoi Jésus mange-t-il avec des pécheurs? Pourquoi est-ce que Jésus mange? Pourquoi est-ce qu'il accepte de manger chez des gens comme ça? Au verset 29, il est écrit, Lévi avait invité des collecteurs d'impôts et d'autres personnes. Tandis qu'au verset 30, les chefs religieux disent, Jésus mange avec des collecteurs d'impôts et avec des pécheurs. Ces gens-là, invités chez Lévi, se permettent de juger le caractère moral des autres invités. Ce n'est pas très poli. Si quelqu'un faisait ça chez vous, vous les mettrez à la porte. Ou une paire de bas. Enfin, je ne sais pas comment vous allez réagir. Mais ça ne se fait pas. Mais les gens étaient étonnés, choqués. Des pécheurs qui mangent avec Jésus. Alors, il faut tenir compte de deux choses au premier siècle en Israël. La première chose, c'est un repas. Au premier siècle en Israël, si vous étiez invité chez quelqu'un pour manger, il y avait tout un symbole derrière un repas. C'est-à-dire, c'était un symbole d'amitié, d'intimité, et d'unité. Ce n'est pas le cas en Europe aujourd'hui, pas tout à fait. Mais à l'époque, vous étiez invité chez quelqu'un, je ne vais pas citer d'exemple, mais invité chez quelqu'un, les gens vont dire, ah oui, c'est des gens, ils sont pareils. Ils sont pareils. Eh bien, Jésus mangeait avec des pécheurs, et les pharisiens disaient, ah oui, ils sont tous des pécheurs, tous dans le même lot. Sauf les chefs religieux, bien sûr, ils sont au-dessus du lot. Ils ont le droit de regarder les pauvres pécheurs pour dire, ils sont des pécheurs, mais nous, on est bien. Ça, c'est la première chose dont il faut tenir compte. La deuxième chose, c'est que Jésus était avec des collecteurs d'impôts. Alors, les collecteurs d'impôts étaient des fonctionnaires, et ils étaient détestés par les Juifs. Non pas parce qu'ils étaient fonctionnaires, soyons clairs. Nous aimons bien les fonctionnaires, surtout ceux qui travaillent à l'hôtel des impôts. Mais ils étaient détestés par les Juifs parce qu'ils étaient considérés comme, déjà comme des menteurs, comme des traîtres parce qu'ils travaillaient pour l'envahisseur romain. Ils étaient considérés aussi comme des collabos. Ils collaboraient avec les envahisseurs. Et sans faire un cours d'histoire récente, on les a détestés. On les a rejetés. Ils étaient menteurs, ils étaient voleurs parce qu'ils s'enrichissaient sur le dos de tous les contribuables. J'explique. Les taxes qu'on devait payer étaient souvent en fonction de la tête du client. Par exemple, si vous étiez mal entre 14 et 65 ans, vous deviez payer une taxe rien que pour le privilège d'exister. Si vous étiez femme ou fille entre 12 et 65 ans, l'égalité n'existait pas à l'époque, eh bien, vous devez payer une taxe rien que pour le privilège d'exister. Et vous devez donner cet argent, en fonction de votre tête, aux Lévites, aux Zachées de ce monde-là. Il y a d'autres impôts. Si vous vendez du blé ou des pommes ou quelque chose qui pousse dans ton champ, tu devais envoyer aux autorités 10% de tes gains. Si tu vendais de l'huile ou du vin, tu devais donner aux autorités 20% de ce que tu touchais. Sur certains produits au marché, il y avait déjà la TVA qu'il fallait calculer et payer. L'impôt sur le revenu pour tout le monde était 1%. C'est peut-être moins qu'aujourd'hui quand j'y pense, mais en tout cas, c'était quand même en plus d'autres choses. Il fallait payer une taxe pour les véhicules. Vous aviez un âne, une charrette. Mathieu, qui était là au siège des Piaget, chaque fois que tu passes devant lui, il fallait donner, pas la pièce, mais la taxe. En fonction du poids de votre âne ou de votre bœuf, en fonction du nombre de roues sur votre charrette, 2, 4 ou 6, une taxe pour chaque roue. Et bien sûr, si vous ne pouviez pas payer les impôts, eh bien, le gentil collecteur d'impôts va vous proposer un prêt, mais à un taux exorbitant que vous ne pourriez jamais rembourser. On comprend pourquoi les collecteurs d'impôts étaient détestés. Et ils n'avaient pas le droit d'aller ni au temple, ni à la synagogue, là où ils habitaient. Vous savez, il y avait un temple à Jérusalem, mais chaque fois qu'il y avait 10 hommes juifs dans une ville, ils pouvaient construire une synagogue pour louer le Seigneur. Mais les collecteurs d'impôts n'avaient pas le droit d'y aller. Ils étaient rejetés, détestés, haïs. Alors pourquoi est-ce que Jésus a mangé avec des gens comme ça? Eh bien, tout simplement, parce que Jésus est venu sur terre justement pour rencontrer des gens comme ça. Ou pour être plus précis, pour rencontrer des gens comme nous. Jésus est venu pour rencontrer des pécheurs, écouter des pécheurs, pardonner des pécheurs, sauver des pécheurs, mourir pour des pécheurs. Il est venu, comme il dit, pas pour appeler les justes ou ceux qui se croient juste, mais pour rappeler ceux qui se savent injustes. Non pas ceux qui se croient en bonne santé spirituelle, il est venu pour ceux qui se savent en mauvais état spirituel. Il est venu pour ces gens-là. La mentalité de Jésus était une mentalité inclusive, tandis que la mentalité des chefs religieux était une mentalité exclusive. Nous, on est bien, mais les autres ne sont pas bien. Jésus est venu pour sauver, voilà, quelques euros. J'ai trouvé ça dans le musée de la maison de Matthieu. Voilà deux versets clés par rapport à la raison pour laquelle Jésus est venu. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Marc 10, 45 et Luc 19, 10, à la fin de l'histoire de Zachée, Jésus dit, « En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Pour Jésus, il ne voulait laisser personne pour compte. Il voulait aller vers les pécheurs pour leur annoncer le pourquoi de sa venue. Alors, dans ce texte, de Matthieu, Lévi, Matthieu, ici dans Luc 5, je vois une invitation. Une invitation aux chrétiens, une invitation aux non-chrétiens. Je m'explique. Il y a des gens qui disent, mais il faut que je m'améliore, que j'aille mieux avant que je puisse venir à Jésus pour demander pardon. Mais Jésus dit, non. Faites comme ce que vous faites quand vous allez à McDo. Le slogan de McDo, c'est quoi? Venez tel que vous êtes, comme vous êtes. Venez comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin et vous ne pouvez pas vous améliorer. C'est lui qui va vous changer une fois que vous êtes venu à Jésus. Et puis il y a des chrétiens qui disent, mais moi, je veux bien venir à Jésus pour lui dire des choses, mais je ne me sens pas prêt, ou je ne me sens pas propre, ou je ne me sens pas assez saint ou assez pur. Et encore, je dis, mais il me semble que Jésus dit, mais venez comme vous êtes. Venez lui dire ce que vous avez à lui dire. Vous savez, on est dans un monde où on court partout. Même un dimanche matin, parfois, on court pour arriver, on court pour partir. Mais parfois, on doit se poser et prendre du temps seul avec Dieu et lui dire des choses telles que nous sommes. Lui dire ce que nous avons sur la patate, sur le cœur, dans le cœur. Ce qui nous fait mal, ce qui est difficile. Parfois, nous avons besoin de demander pardon. On traîne quelque chose comme une boulet. Et on a besoin de demander pardon pour être libéré de ce qu'on traîne, de ce qu'on nous ralentit, de ce qui nous ralentit dans notre course de chrétien. Et nous devons venir tel que nous sommes pour dire Seigneur merci, car tu es un ami fidèle et tendre. Tu es toujours prêt à nous entendre. Tu es toujours prêt à nous comprendre. Tu es toujours prêt à nous reprendre. Et combien de fois on a besoin d'être repris par le Seigneur. Venir tel que nous sommes. César Malan était un Suisse, né en 1787. Et quand il cherchait un travail, il a décidé de devenir pasteur à 26 ans. Il n'était pas converti, mais il était embauché par une église, pasteur. À 29 ans, il s'est converti. Alors, je peux vous dire que du jour au lendemain, sa façon de prêcher était radicalement transformée. Et après sa conversion, 29 ans, 30 ans, il a commencé à employer des mots qui ne plaisaient pas aux gens. Péché, pardon, Jésus est mort, l'enfer. Oh! Après quelques mois après sa conversion, les gens de son église lui ont dit, soit vous prêchez comme avant, soit vous quittez l'église. Donc il a quitté l'église. Il dit, je ne peux pas prêcher comme avant. Je ne suis pas comme avant. Il a quitté l'église. Donc il était invité à droite et à gauche. Et il a composé des cantiques. Et certains sont peut-être encore dans À toi la gloire. En tout cas, un jour il a été invité en Angleterre. Et en Angleterre, il a prêché dans une église à la fin du culte. Charlotte Elliott, une poète connue à l'époque, vient le voir. Et il discute et il dit, mais vous savez, je suis malade depuis que je suis né. Et j'en veux un peu à Dieu pour ça. Donc, César, il écoute. Et puis il dit, mais j'ai un autre problème. Depuis toujours, je me sens coupable. Je me sens coupable. Et je n'ose pas prier parce que je sais que je suis coupable. Mais vous avez prêché sur le texte, Jean 6, 37, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Eh bien, mais si je viens à Jésus aujourd'hui comme ça, il va me mettre dehors. Alors, le prédicateur a dit, non, pas besoin de changer. Venez comme vous êtes, tel que vous êtes. Demandez pardon. Et après, Jésus va vous changer. Mais venez avec vos péchés, avec vos fardeaux, et demandez pardon. Ce soir-là, cette dame s'est convertie, et quelques temps plus tard, elle a composé un cantique. Et je vais afficher quelques lignes de ce cantique sur l'écran. Tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, luttes au dehors, craintes au dedans, elle a dit, et nous pouvons dire, agneau de Dieu, malgré ce que j'ai dans mon cœur, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien, tel qu'il est, pour tout changer. Sauveur parfait, Agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour. Agneau de Dieu, je viens. Si j'ai dit ça à la fin de ce message, c'est pour encourager. Si vous n'êtes pas au Seigneur, si vous ne savez pas si vous ne convertirez ou pas, eh bien c'est le moment où vous pouvez dire, Seigneur, je viens avec mes péchés, je te les dépose, s'il te plaît, pardonne-moi et aide-moi à te suivre comme Lévi, comme Matthieu, comme tant d'autres. Et si vous êtes converti et vous avez des craintes, des luttes, des disputes dans le cœur, des fardeaux, si vous avez besoin de confesser quelque chose, de renouveler votre amour pour le Seigneur, de dire au Seigneur ce que vous avez comme souffrance à cause d'une déception ou d'une blessure de la part de quelqu'un, eh bien, venez maintenant et dans votre cœur, dites au Seigneur ce que vous avez à lui dire. Je ne vais pas vous dire ce que vous devez dire. Mais c'est un moment où on peut dire, Seigneur, je veux te déposer ça à tes pieds. Je ne comprends pas, mais je te le dépose. Je te le donne. Et je peux vous dire que si nous faisons ça sincèrement, le Seigneur nous écoutera et le Seigneur agira suite à notre demande. Je propose quelques instants de silence où dans le cœur de chacun, on peut dire quelque chose au Seigneur. Que vous soyez chrétien ou pas, dites-lui quelque chose. Et dites-lui même, tel que je suis, Seigneur, avec ce que j'ai, mes imperfections, je viens. S'il te plaît, agis dans mon cœur. Quelques instants de silence, et puis je vais clore par la prière.